La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans la cinquième émission déjà de la Semaine de l'Art, l'émission radio web de la Tribune de l'Art. Nous sommes, vous savez que vous pouvez écouter cette émission soit directement à partir du site, sur un ordinateur, sur un iPad, sur un smartphone, et vous pourrez réécouter l'émission ensuite, et également la télécharger en podcast uniquement si vous êtes abonné à la Tribune de l'Art. Je rappelle que l'abonnement à la Tribune de l'Art est d'une modestie qui fait frémir certains, 40 euros par an seulement. Notre invité pour cette cinquième émission, Alexandre Maral, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Maral, donc vous êtes conservateur en chef au château de Versailles, chargé des sculptures. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, donc nous parlerons à la fois de votre activité de conservateur à Versailles et des ouvrages que vous avez récemment publiés, peut-être que vous préparez. Mais tout d'abord, comme d'habitude, la chronique.
La chronique.
Enfer et damnation, je ne retrouve plus le texte de ma chronique, donc vous me donnez une petite seconde, ce sont les inconvénients du direct. Nous allons bientôt y arriver, excusez-moi. C'est une chronique en tout cas qui va porter sur un dossier dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, l'Institute of Art de Detroit. Nous n'avions donc pas encore parlé sur la Tribune de l'Art de la situation du Detroit Institute of Art, le grand musée des beaux-arts de Détroit, dans le Michigan. Rappelons donc la situation qui a été largement couverte par la plupart des grands journaux généralistes. La ville de Détroit est en situation de faillite. Mais contrairement à beaucoup de musées américains qui sont de droit privé, ou comme à Washington qui sont fédéraux, le Detroit Institute of Art dépend de la ville de Détroit. Il est donc envisagé que certaines œuvres, celles qui ont été achetées avec l'aide de la municipalité, dont certaines comptent parmi les plus importantes du musée, puissent être vendues pour rembourser les créanciers. Christie's a donc été chargé d'estimer une partie de la collection, celle qui a été achetée avec la mention City of Detroit Purchase, soit 2800 œuvres tout de même. La maison de vente a abouti à un montant compris entre 452 et 866 millions de dollars, dont 75% du total se concentre sur 11 chefs-d'œuvre, parmi lesquels un autoportrait de Van Gogh, une danse villageoise de Peter Bruegel l'Ancien, la visitation de Rembrandt et un Saint-Jérôme dans son atelier de Jan van Eyck. Rien que ça. Si nous n'avions rien écrit jusqu'à présent sur ce sujet, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que lorsque cette situation a été révélée, l'information était immédiatement un peu partout dans la presse, et nous n'avions rien de plus à ajouter sur ce qui disait alors, et qui était d'ailleurs extrêmement confus. Désormais, notre revue de presse, que nous avons dans cette émission La Semaine de l'Art, nous permet d'aborder des sujets sur lesquels nous n'avons pas forcément d'informations supplémentaires à donner. La seconde, et je dirais la principale raison, c'est que tous les bruits entendus à ce sujet doivent être pris avec beaucoup de prudence. On a pu lire parfois, et encore récemment dans certains journaux français, que c'était fait, que le musée allait vendre des œuvres, alors qu'en réalité la situation est beaucoup plus complexe, et heureusement, peut-être un petit peu moins grave. Nous avions aussi parlé en effet à la fin du mois de septembre à Graham Bill, le directeur du musée, qui nous avait alors confirmé que l'emergency manager, en charge de traiter le dossier pour la ville, avait dit qu'il n'était pas question de vendre des œuvres. Graham Bill lui-même avait bon espoir d'éviter cette catastrophe, et affirmait que de toute façon, si tel était le cas, le Detroit Institute of Art irait devant la justice. Depuis cette date, la situation évolue plutôt dans le bon sens, puisqu'un vaste mouvement d'opinion s'efforce de trouver des fonds suffisants pour protéger le musée de la vente. Ainsi, une souscription auprès des particuliers et de fondations a permis déjà de rassembler pas moins de 320 millions de dollars. D'autre part, l'État du Michigan a proposé d'offrir, lui, 350 millions de dollars sur 20 ans. L'objectif est en quelque sorte de pouvoir rendre le musée indépendant de la ville en remboursant celle-ci des sommes qu'elle avait mises dans l'achat des œuvres en question, ce qui permettrait de l'aider à rembourser la dette. Tout cela n'est pas encore bouclé à l'heure où nous parlons pour des raisons assez complexes dues à la législation américaine sur la banqueroute. Mais il y a néanmoins de très fortes chances que la situation puisse déboucher sur un sauvetage du musée. Une situation telle que celle-ci rend encore plus incompréhensible la politique de certains musées américains qui vendent fréquemment des œuvres de leur collection. Je pense par exemple au musée de Toledo, qui n'est pas très loin en fait de Detroit. Bien sûr, il s'agit toujours d'amender leur fonds d'acquisition, vendre pour racheter donc. Mais vis-à-vis des politiques, comme certains à Detroit qui ne voient dans les musées qu'un actif comme un autre, ce type de comportement nous semble particulièrement dangereux. En tout cas, cela justifie encore davantage la loi française qui consacre l'inaliénabilité des collections. Imaginons ce que certains maires pourraient faire des œuvres de leur musée afin de rembourser les dettes de leur ville. Il est évident pour conclure que la vente des collections serait un désastre pour une ville comme Détroit. Car sur quoi pourrait-elle s'appuyer pour remonter la pente, si c'est né sur une richesse telle que ce musée ? Sur l'inaliénabilité des collections, je pense, Alexandre Maral, vous ne serez pas en désaccord avec nous, c'est quand même une chose très importante. Qu'est-ce que vous évoque cette histoire de Détroit ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, par exemple ?
Des grandes ventes, il y en a eu malheureusement au XIXe siècle, lorsqu'on a bradé les joyaux de la couronne, et on le regrette encore aujourd'hui. Donc c'est évident qu'il faut être très, très prudent et réfléchir à deux fois avant de prendre de telles décisions.
Alors, Alexandre Maral, vous êtes conservateur des sculptures à Versailles, donc c'est beaucoup de sculptures, c'est un champ presque infini.
2300 exactement.
Très bien. Et alors, dites-nous un peu comment on conserve un tel trésor, dont beaucoup sont en extérieur et donc souffrent beaucoup de la pollution. Elles sont protégées en hiver, mais je sais que vous avez quand même une politique qui est, au château de Versailles, de les rentrer en les remplaçant par des copies. Alors racontez-nous cela un peu.
Oui, parce que sur les 2300, il y en a effectivement à peu près 300 qui sont en extérieur, de sculptures en marbre, et qui sont parmi les plus belles de la collection, puisque elles ont été commandées par Louis XIV, et elles font partie vraiment de l'histoire du lieu depuis l'origine, de leur création. Elles sont malheureusement restées en extérieur pendant plus de trois siècles, et dès le XVIIIe siècle, ça c'est important de le souligner, dès le XVIIIe siècle, certaines voix se sont fait entendre pour réclamer une meilleure protection. C'est notamment le cas de Voltaire, rien que lui, dans le siècle de Louis XIV, qui est publié en 1751, et dans lequel il déplore le sort qui est fait au chef-d'œuvre de tous ces chefs-d'œuvre, qui est le groupe d'Apollon servi par les nymphes de Girardon. Et il dit que ce groupe est exposé aux injures de l'air. Donc déjà,
et pourtant, il n'y avait pas de pollution à l'époque, en tout cas beaucoup moins que maintenant.
Beaucoup moins de pollution, mais il y avait déjà des précipitations et les micro-organismes qui n'ont que trop tendance à s'incruster sur les œuvres en marbre dès lors qu'elles sont en extérieur, à la faveur de l'humidité. Depuis le XVIIIe siècle, donc ça, un mouvement s'est fait entendre pour réclamer au moins la mise à l'abri des plus grands chefs-d'œuvre. Malheureusement, rien n'a pu être fait vraiment jusqu'à ces dernières années. Et c'est pourquoi maintenant nous nous employons à sauver cet héritage de Louis XIV, puisque même si ses œuvres sont très abîmées, ça reste de très grands chefs-d'œuvre et on ne peut pas se permettre de les laisser partir.
Alors donc vous avez une politique systématique de remplacement. Comment ça se passe ? Comment choisissez-vous celles qui vont être remplacées par des copies ? Comment sont faites ces copies et où vont les œuvres ?
Alors sur les 300, 320 exactement, on en met les plus importantes, forme une liste de 80, c'est-à-dire un quart de cette collection. Et c'est sur ce quart-là que porte notre effort en ce moment. Ça a commencé en 2008 avec le groupe que je viens de citer, d'Apollon servi par les nymphes, qui est vraiment la Joconde de Versailles. Ce groupe-là a pu être mis à l'abri grâce d'ailleurs à un mécénat tout à fait important. Et depuis lors, nous avons pu sauver donc à peu près une quarantaine d'œuvres qui sont maintenant conservées à l'intérieur. Alors soit à l'intérieur du château, soit à l'intérieur de la petite écurie, dans des espaces que l'on veut davantage désormais ouvrir à la visite.
Donc les petites écuries vont être ouvertes à la visite plus
tard. La petite écurie a déjà été ouverte le 2 février dernier, une journée exceptionnelle, et à nouveau le 2 mars. J'informe les.
Donc information pour les très intéressants.
Cette journée, donc ouverture gratuite de la réserve de la petite écurie, réserve qui est installée, qui est un espace copartagé avec le Louvre, d'ailleurs avec le musée du Louvre, qui lui-même a installé la collection des moulages provenant de l'école des Beaux-Arts.
C'était Jean-Luc Martinez d'ailleurs, président du Louvre, qui était responsable de cette collection.
Donc cette collection qui forme ce qu'on appelle la gypsothèque, qui est une collection de plâtre, et dans un espace qui copartagé avec Versailles. Et dans la partie Versailles, si vous voulez, on trouve déjà une dizaine de sculptures provenant des jardins, dont les groupes d'Apollon.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'à terme, les sculptures seront réunies dans cet endroit ou on ne sait pas encore ?
C'est une première ébauche d'un projet qui est appelé à s'amplifier. L'idée serait évidemment de pouvoir augmenter la surface de ces réserves visitables et puis à terme de profiter des immenses espaces qui sont dans le château lui-même et qui ne sont pas encore aménagés. C'est la dernière phase du schéma directeur d'aménagement du Grand Versailles et donc notamment dans l'aile du Midi, il y a là un potentiel formidable pour présenter des sculptures.
Et ces sculptures, donc vous avez dit 80, je crois, sur qui sont déjà une quarantaine qui sont déjà montées sur un nombre de
80 pour l'instant, la première liste.
D'accord.
Voilà.
Et la priorité, donc, c'est à la fois l'État, mais l'importance également. Ça veut dire que les autres sont moins importantes, s'abîment pas ou s'abîment moins
Les autres s'abîment moins parce qu'elles sont dans des bosquets davantage protégés. Là, les 80 dont je viens de parler sont essentiellement, pour l'essentiel, répartis sur les grands parterres, donc exposés au vent, davantage aux pluies. Dans les bosquets, c'est sûr que l'atmosphère est plus préservée. Et également, ce sont des œuvres moins importantes. Il y a soit des copies d'après l'antique, soit des œuvres qui sont arrivées à Versailles au 19e, voire au 20e siècle.
Et comment financez-vous cela? Alors, je crois qu'il y a un appel au mécénat qui est régulièrement fait.
Alors, depuis 2005, il y a ces campagnes d'adoption proposées aux mécènes. Donc, les mécènes peuvent se parrainer, adopter une sculpture qui devient en quelque sorte leur enfant. C'est une campagne qui a très bien marché, qui continue à très bien marcher et qui fait qu'on a des mécènes qui sont très fidèles maintenant, qui reviennent, qui adoptent plusieurs sculptures année après année. Et ils nous ont considérablement aidés. Et puis, alors, donc ce sont essentiellement des petites et moyennes entreprises ou bien des particuliers. Et puis, on a certains mécènes, comme le mécène que j'évoquais à propos du groupe d'Apollon. Là, c'est une fondation américaine.
Vous pouvez les nommer, il n'y a pas de problème de CSA ou quoi que ce soit. On peut dire ce qu'on veut. Au contraire, il faut nommer les mécènes, c'est toujours bien.
C'est la Versailles Foundation, dont la vocation, précisément, est de venir en aide à Versailles et qui nous a énormément aidés sur ce projet, puisque elle y a consacré plus d'un million d'euros.
D'accord. Et est-ce que, par rapport à la possibilité de restaurer, possibilité technique, de disponibilité des ateliers, des restaurateurs, est-ce que vous pourriez aller plus vite si vous aviez plus de mécènes ou est-ce que finalement vous êtes sur un rythme qui vous satisfait?
Le rythme actuel est tout à fait satisfaisant puisque nous parvenons à mettre à l'abri, à restaurer, à remplacer par des copies dans les jardins parce que évidemment chaque fois que l'on soustrait une œuvre au jardin, il faut évidemment la remplacer par une copie de qualité qui permette au jardin de conserver sa configuration. On est à 7-8 copies par an et c'est un bon rythme. Il ne faut pas aller trop vite, sinon ce sera moins bien fait.
Oui. Et alors, dites-nous un mot de la technique avec laquelle vous... Alors, je rappelle que nous avions fait un reportage sur la Tribune de l'Art, sur le groupe des Bains d'Apollon. Nous parlions également de cette technique, mais rappelez pour ceux qui... C'est un article déjà ancien et c'est intéressant de savoir... Expliquez-nous comment vous faites pour
reproduire. Oui, d'autant qu'il y a plusieurs écoles. Et alors, nous fions à la technique du moulage, par prise d'empreinte directe sur la sculpture. C'est une technique qui garantit une parfaite fidélité à l'original que l'on met à l'abri, que l'on remplace, une fidélité qui va jusqu'à reproduire les altérations de l'original. Il ne s'agit pas de remettre une sculpture dans un état idéalement reconstitué qui n'existe plus. On respecte son histoire et la copie qui est mise en place dans le jardin reflète précisément l'état de l'original au moment où il a été soustrait. Donc il y a une parfaite fidélité de surface et ensuite fidélité aussi de matière. Alors elles ne sont pas comme on procède par moulage, donc la copie est coulée dans un moule en creux et donc on peut pas, elle n'est pas en marbre mais en poudre de marbre mêlée à un liant qui est une résine et donc elle est, ce qui fait qu'elle est résistante comme le marbre et de la blancheur du marbre.
Et pour un spécialiste comme vous, on doit voir tout de suite la différence entre un marbre et ça ou...
Pas toujours.
Pas toujours. Donc ça veut dire que c'est très bien fait.
Il y en a qui sont remarquablement... on s'y tromperait, oui.
D'accord. Sur le 17e, c'est le 17e et le 18e donc, qui est concerné plutôt par ce... Ou surtout le 17e.
Surtout 17e, parce que les grandes... ces 80 œuvres ont été commandées sous Louis XIV, mais la première partie du règne, avant le... Une fois que les jardins sont assez rapidement aménagés, ils n'ont... Même si les commandes ont continué au XVIIIe siècle, l'essentiel était en place à la fin du XVIIe.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi des sculptures du XIXe ?
Alors, les sculptures du XIXe, ce sont surtout des œuvres... En fait, c'est, vous voulez dire à l'intérieur du...
Oui, tout à fait. Enfin, dans le enfin,
parce que dans le jardin, il y a très peu d'œuvres du XIXe. Je parlais de qui sont arrivées au XIXe.
Au XVIIIe et XIXe, il n'y a pas d'œuvres dans les jardins, c'est ça.
Alors, XVIIIe, si, quelques créations, oui. Mais très peu. Et XIXe, ce sont des arrivées d'œuvres qui n'appartiennent pas à l'histoire de Versailles avant et qui sont mises là en remplacement d'œuvres plus importantes, parties, elles, pour
d'accord,
le Louvre, notamment.
D'accord. Bon. Et en revanche, alors vous avez aussi toutes les œuvres conservées dans le château lui-même.
Voilà, donc sur les
dont beaucoup de 17e, Bernin,
les 2300,
exemple.
Effectivement, il y en a près de 1500 à l'intérieur du château ou en réserve, et ce sont des œuvres très importantes qui, alors là aussi, il y a deux ensembles. Il y a un ensemble qui on peut qualifier de sculpture de la résidence royale, de la résidence d'Ancien Régime, qui sont présentées pour l'essentiel dans les appartements royaux, qui étaient là en place sous l'Ancien Régime, qui ont pu revenir à Versailles parce que toutes ces sculptures avaient quitté Versailles à la Révolution. Et puis, il y a un très grand ensemble qui forme le musée dédié à toutes les gloires de la France par Louis-Philippe. Donc, ce sont des sculptures qui sont arrivées aussi au XIXe siècle, soit des sculptures anciennes, soit des sculptures exécutées pour ce musée, en vue de l'ouverture de ce musée qui a été inauguré donc en 1837.
D'accord. Et donc ça c'est plutôt, enfin bon voilà, donc ça fait partie des opérations de conservation habituelles d'un conservateur.
Alors beaucoup de ces sculptures sont présentées à l'intérieur du château, d'autres sont en réserve. Il y a un ensemble tout à fait remarquable qui est actuellement en restauration, c'est celui des bustes, des 80 bustes qui sont dans la galerie des batailles. Hein, la galerie des batailles, c'est pas seulement les grands tableaux, c'est aussi ces bustes de militaires qui ont participé à l'histoire de la France, et c'est un mémorial très intéressant constitué à la demande de Louis-Philippe, alors essentiellement à partir de créations, et ce sont des bustes en plâtre qui devaient d'ailleurs être traduits en marbre, qui ne l'ont pas été puisque le régime de Louis-Philippe s'est effondré avant que ce programme ait eu le temps d'être finalisé, et donc on a cet ensemble tout à fait remarquable.
Merci.
Les nouvelles très très brèves.
Donc des nouvelles très très brèves qui, comme vous le savez, ne sont pas très très brèves, elles ne sont même des fois pas brèves du tout. C'est une habitude sur la Tribune de l'Art. La première, si, sera extrêmement brève, et c'est une bonne nouvelle, puisque nous avions parlé dans notre troisième émission, lorsque nous avions reçu Alexandre Gady, nous avions parlé du château de Noisy, du château néo-gothique de Noisy en Belgique, qu'il était question de démolir, car il était devenu dangereux, et son propriétaire avait demandé l'autorisation de le détruire. Eh bien, bonne nouvelle, puisqu'on apprend de Belgique que le château de Noisy est en instance de classement, donc ils ont en Belgique à peu près la même chose qu'en France, c'est-à-dire une instance de classement. Alors, rappelons-nous que les instances de classement ne veulent pas forcément dire classement. On se rappelle du triste exemple de la halle de Fontainebleau. Mais voilà, tout pour l'instant, le château de Noisy, chez nos voisins belges, est préservé. Et on espère qu'il pourra trouver un propriétaire qui souhaitera engager les travaux nécessaires. Parce que si vous allez voir sur le site, dans notre émission numéro 3, nous avons mis une photo vers ce château, qui est vraiment un château type Belle au bois dormant, tout à fait remarquable. Autre nouvelle brève. Également, plutôt une bonne nouvelle. Nous n'avions pas parlé sur la Tribune de l'Art, alors que nous avions été voir le site il y a 3 ou 4 ans, et qu'on était assez inquiets sur de son devenir, de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Car vous savez que l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, comme beaucoup d'hôpitaux à Paris et en France, vient d'être, ou va être désaffecté, et sera transformé, l'intégralité sera transformée en autre chose, et va être achetée, en fait, par la ville de Paris. Alors, qui dit ville de Paris dit inquiétude, mais malgré tout, nous sommes allés hier à la réunion qu'une association Saint-Vincent-de-Paul qui vient de se créer pour regarder un peu ce qui va se passer sur ce site, avait fait venir les 3 candidates principales du 14e arrondissement, à savoir pour les écologistes Célia Blouel, pour les socialistes Karine Petit, Et Nathalie Kosciusko-Morizet elle-même, qui est candidate dans le 14e et qui, comme vous le savez, est candidate aussi à la mairie de Paris. Eh bien, les trois candidates nous ont affirmé qu'elles souhaitaient toutes conserver les bâtiments du XVIIe siècle, y compris, bien sûr, la chapelle, ce qui est une très bonne nouvelle, sachant que aucun de ces bâtiments, ni même la chapelle, n'est protégé monument historique, ce qui paraît complètement incroyable, parce que c'est vraiment une assez belle chapelle, même si l'intérieur a été entièrement détruit, a été en tout cas plafonné, coupé en deux, etc. Mais la chapelle est un très beau bâtiment, rien n'est protégé, mais a priori, rien ne devrait être détruit. Il faut dire aussi, il faut le souligner tout de même, c'est que nous sommes évidemment très critiques sur Anne Hidalgo, et nous le serons encore jusqu'au bout, et certainement, je le crains, pour la prochaine mandature si elle est élue. Mais nous avons été critiques également envers Nathalie Kosciusko-Morizet, qui jusqu'à présent a vraiment peiné à convaincre sur son programme électoral. Or, il faut dire que pour la première fois, nous avons vu hier Nathalie Kosciusko-Morizet maîtriser complètement un sujet, et elle a présenté un projet pour cet hôpital et qui paraissait totalement cohérent et qui a d'ailleurs été très applaudi le plus de tous les trois projets. Voilà. Espérons que ça sera, en tout cas, que ça inspirera pour le reste de son programme, qui pour l'instant, du point de vue culturel, est assez peu riche, je trouve. Elle a quand même également signalé que pour Paris, elle pensait que la hauteur R+6, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 6 étages, qui correspond en gros au gabarit haussmannien, était la bonne hauteur pour Paris, et que même R+9, c'était trop. Et elle a raison sur ce point, et rien que sur ce point, je pense qu'il faut, sans faire de politique politicienne, dire que Anne Hidalgo veut construire des tours, et Nathalie Kosciusko-Morizet ne veut pas le faire, et veut rester au gabarit parisien actuel. Et je pense que c'est la seule solution pour Paris et que les tours seraient une catastrophe. On le voit déjà avec quelques tours qui existent. À propos toujours de Paris et des églises, nous avons parlé de beaucoup d'églises qui sont en péril. Nous verrons tout à l'heure que Le Figaro et Claire Beaumelaire ont consacré également un autre article récemment aux églises de Paris en péril. Eh bien, quelqu'un m'a montré tout à l'heure une photo des peintures murales de Jules Le Neveu à l'église Sainte-Clotilde. Je dois dire que je n'étais pas allé à l'église Sainte-Clotilde depuis déjà un petit moment, au moins une dizaine d'années. Eh bien, il y a une dizaine d'années, ces peintures murales étaient plutôt en bon état, à peu près. Eh bien, une partie des peintures murales de Le Neveu n'existe plus. Donc, l'église Sainte-Clotilde est également une église menacée. Je ne l'avais pas mise sur ma liste, mais je ferai bientôt des photos sur place et je pourrai les publier sur le site. C'est bien la preuve que, contrairement à ce que dit la mairie de Paris, les églises de Paris sont dans un état lamentable. Seule bonne nouvelle, finalement, c'est que, en ce qui concerne les églises de Paris, Daniel Pourtaud, qui est l'adjointe au patrimoine, ne se représente pas, a priori, pour la prochaine élection, et donc elle ne sera plus l'adjointe au patrimoine de Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, pour conclure ces brèves, très brèves, qui ne sont pas brèves du tout, 85 Miro, vous l'avez peut-être lu dans la presse, devait être vendu par l'État portugais, qui en a hérité d'une banque en faillite. Ça a été retiré au dernier moment de la vente aux enchères à Londres, parce que il y a des procès qui se profilent au Portugal. Malheureusement, l'État portugais veut toujours vendre ses 85 Miro, et on n'est bien sûr pas dans le cas d'un musée, donc ce ne sont pas des collections inaliénables, mais c'est tout de même dommage de se dire qu'un pays possède 85 Miro, une collection extraordinaire de Miro, et si on en croit ce qu'ont dit les responsables politiques du pays, bah 85 Miro, c'est pas important, c'est jamais qu'un peintre espagnol du XXe siècle. Et on est au Portugal. Cela témoigne d'une bêtise assez rare, mais finalement, qui n'est pas très différente de celle de quelques-uns de nos politiciens. Alexandre Gaidi nous en parlait maintenant de vos ouvrages. Et j'ai sous les yeux deux très beaux livres dont j'étais extrêmement triste et un peu honteux de ne pas avoir parlé, mais ça va être l'occasion de nous rattraper. Le premier et le plus récent, Le Versailles de Louis XIV, un palais pour la sculpture. Donc nous revenons bien sûr aux sculptures de Versailles, c'est normal avec Alexandre Maral. Donc c'est un très beau livre qui est publié aux éditions Faton. Alors dites-nous un petit peu ce que vous avez voulu faire avec ce livre qui est très richement illustré, avec un texte important également. Quel était l'objectif ? C'est pas un catalogue raisonné.
C'est pas un catalogue raisonné, mais le but était double. Le premier, c'est, je constate de manière générale que il y a un certain retard des études portant sur la sculpture au regard de celles portant sur la peinture. Ça, c'est un problème d'histoire de l'art. L'histoire de l'art qui, peut-être moins que par le passé, mais fait toujours, a tendance à se considérer comme une histoire de la peinture. Et donc, je voulais montrer que Versailles, c'est un ensemble de sculptures extraordinaires et souvent d'artistes trop injustement
méconnues. Et donc là, vraiment, j'ai voulu faire un travail de réhabilitation.
Dites-nous un mot de ces artistes. Quels sont les artistes peu connus qui vous touchent beaucoup ?
Eh bien, par exemple, Étienne Lehongre, Jean-Baptiste Tuby, Thomas Regnaudin.
Ils sont quand même un petit peu connus.
Oui.
Tuby, par exemple, a fait un superbe, je crois, à Saint-Eustache, c'est de Tuby, monument de Colbert.
Oui, oui. Mais c'est des immenses artistes et quand même, ils ne sont pas connus du grand public comme.
Il n'y a pas de monographie en tout cas. Il n'y a plus de monographie.
Oui,
c'est vrai.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un retard à rattraper. Alors, ce livre en est un modeste essai pour justement remettre la sculpture à l'honneur et surtout Versailles. Un palais, c'est le sous-titre du livre, un palais dédié à la sculpture, c'est vraiment, elle est partout présente.
Elle est présente dans les jardins, on l'a vu, mais elle est présente sur le bâtiment aussi.
Sur le bâtiment, à l'intérieur du château, dans les collections royales, c'est vraiment un lieu de mise en scène de toute cette sculpture, et dans l'histoire de la commande publique d'ailleurs, l'épisode Versailles n'a pas connu de précédent et n'a jamais été dépassé depuis. Plus d'un millier d'œuvres rassemblées par Louis XIV, des commandes, à des artistes les plus prestigieux et tout ça se fondant sur le
Ril. La restauration donc de certaines églises, on l'espère, pourra commencer. Je sais que Saint-Germain-des-Prés, par exemple, va être restaurée, mais grâce à un mécénat très important qui n'a pas encore été annoncé, mais elle va être restaurée grâce à un mécénat très important, pas grâce à la ville, mais bon, c'est toujours ça de prix. Je pense que cette médiatisation, en tout cas, à laquelle nous ne sommes pas étrangers, va quand même pousser, nous l'espérons, la ville de Paris à prendre des mesures, même si les 80 millions d'euros du plan église, entre guillemets, qu'Anne Hidalgo annonce pour la prochaine mandature, ça ne fait que reconduire le budget quasiment annuel à peine plus que le budget de la précédente mandature et un peu moins que celui de la première mandature de Bertrand Delanoë, ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas de plan église. Hein. On appelle plan église simplement le fait qu'on ne diminue pas et qu'on augmente juste un petit peu le budget consacré à la restauration des églises. Mais bon, voilà, il faut continuer à dénoncer cela parce que c'est totalement incroyable qu'une capitale comme Paris laisse son patrimoine dans cet état-là, alors que c'est un atout extraordinaire au point de vue culturel et également au point de vue touristique et même économique, même si c'est un peu dommage d'être obligé de défendre l'économie pour simplement défendre ce qui devrait être protégé naturellement. Il faut aller sur le site du Figaro, l'article est très bon, les commentaires sont consternants une fois de plus, je ne sais vraiment pas pourquoi tous ces journaux continuent à laisser leurs commentaires ouverts à des anonymes qui racontent. Alors évidemment on parle des églises, donc il y a à peu près 10 pages de commentaires dont certains disent « mais on n'a rien à faire de ces églises, laissons-les se démolir, ça n'a aucun intérêt », ou alors que le clergé paye. Que les fidèles payent, comme si ces églises n'appartenaient pas à tout le monde, comme si ces églises n'étaient pas gratuites, n'étaient pas un des plus grands musées de France. Donc lire ce type de commentaires sur un journal comme Le Figaro, mais on pourrait lire la même chose dans Le Monde ou dans Libération, c'est réellement consternant. Libération, parlons-en, puisque Vincent Noce, que nous citons régulièrement pour ses très bons articles dans ce journal, a publié le 31 janvier dernier « Peinture quand la justice s'en mêlait les pinceaux ». Alors c'est très intéressant. Je résume l'histoire très rapidement. C'est Vincent Noce qui, en fait, a suivi cela depuis le début. Une historienne de l'art, en fait, qui travaillait sur Jean Metzinger, avait été mise en cause et donc avait été jugée en première instance et en appel. Elle avait été obligée par un propriétaire. La justice avait dit que le propriétaire qui possédait une œuvre de Metzinger, elle ne croyait pas à cette œuvre. Excusez-moi, je ne suis pas très clair. Je recommence. Un propriétaire privé avait une œuvre qu'il disait de Metzinger et la personne, l'historienne de l'art, Bozena Nickel, avait dit que ce n'est pas une œuvre de Metzinger. Et la justice la condamnait à inclure l'œuvre dans le catalogue raisonné. On imagine ce que cela voulait dire pour tous les historiens de l'art qui seraient obligés, après un procès qui coûte beaucoup d'argent, d'inclure des œuvres auxquelles ils ne croient pas. Eh bien, heureusement, et ça c'est Vincent Noce qui nous le rapporte, en cassation, le tribunal en cassation a cassé l'arrêt, a cassé cette décision, et elle n'est pas obligée d'inclure l'œuvre de ce monsieur dans le catalogue de Metzinger. Ce qui paraît la moindre des choses, c'est quand même incroyable qu'on veuille décréter en cours ce qui est exact ou pas. Peut-être que il peut arriver que les historiens de l'art qui se déclarent experts ne soient pas bons, mais ça c'est le risque. Mais en tout cas, c'est la liberté d'expression, et la liberté d'expression est absolument essentielle dans ce cas. Et le tribunal de cassation, la cour de cassation, a décrété la liberté d'expression, fait qu'un historien de l'art peut ne pas prendre une œuvre dans son catalogue. Imaginons, nous allons parler dans un instant de vous avez fait le catalogue Girardon, que on vous oblige à mettre une œuvre de comme Girardon, alors que c'est pas de Girardon. Qu'est-ce que vous en penseriez, Alexandre Marat? C'est incroyable. Enfin, c'était vraiment très inquiétant pour tous les historiens de l'art, et heureusement, cet arrêt est vraiment essentiel, et on s'en réjouit tous. Donc voilà, donc j'ai abordé le sujet suivant en fait, qui sont vos prochains travaux. Donc vous travaillez sur Girardon, voilà. François Girardon, que là j'espère tout le monde connaît, en tout cas quand même certainement un des plus connus des sculpteurs du XVIIe siècle, et certainement l'un des meilleurs.
L'un des meilleurs, le plus grand même, le sculpteur du règne de Louis XIV, sachant que il a eu un rôle officiel qui lui a été garanti par l'institution à laquelle il appartenait, l'Académie royale de peinture et de sculpture, mais aussi par la confiance que lui a fait Louis XIV, le goût du roi qui lui a permis de créer les plus grands chefs-d'œuvre de Versailles, la sculpture française de ce moment-là. Je n'ai déjà pas évoqué à plusieurs reprises le groupe d'Apollon servi par les nymphes, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Alors il est aussi l'auteur du tombeau de Richelieu à la Sorbonne, l'enlèvement de Proserpine à Versailles, la statue d'Hiver qui fait partie de la grande commande, et d'autres, bien d'autres œuvres, mais c'est un des plus grands sculpteurs. Et alors la dernière monographie date de 1928, elle est due à Pierre Francastel, et évidemment il y a d'inévitables mises à jour qui s'imposent, et de remettre aussi ce grand artiste à l'honneur, et qui mérite d'être illustré par de très belles photographies, ce que les éditions Artena.
Une fois de plus, qui va éditer ce livre absolument essentiel. Je peux le dire déjà à présent, après on le lira et on verra, mais Girardon est un artiste vraiment essentiel. Et pourquoi il n'est pas attaquant?
Alors c'est prévu pour 2015, c'est-à-dire le tricentenaire de sa mort.
Il est mort la même année que Louis XV. Louis XIV, pardon.
Et le même jour.
Le même jour que Louis XIV.
Oui, c'est fidèle à son roi.
Extraordinaire, c'est Sardin la Pâle, en fait. Le même jour que Louis XIV, c'est incroyable.
Et tout en étant âgé de 10 ans de plus que le roi. Mais
donc il a fait très bien les choses, c'est vraiment le sculpteur de Louis XIV.
Oui, tout à fait.
Quels sont vos autres... Vous avez d'autres... Alors, vous travaillez sur cet artiste depuis très longtemps, je suppose. Dites-nous, en avant-première, est-ce qu'il y a une ou deux découvertes que vous avez faites d'œuvres, ou est-ce que tout le corpus était connu et c'est plutôt autour de sa vie?
Le corpus est bien connu, parce qu'il y a aussi eu les travaux de François Souchal, qui ont été publiés dans les French en 1981, dans le volume 2.
French Cultures.
Oui, French Cultures. On dit les French,
c'est... On dit les French, c'est entre initiés. Mais il y a peut-être des non-spécialistes de la sculpture qui nous écoutent.
Oui, bien sûr.
Donc c'est ce livre en 4 volumes absolument essentiel sur les sculpteurs de Louis XIV. French, et publié en anglais. C'est pour
ça
qu'il
est en anglais, voilà. Et donc il y a une partie, le volume 2, il y a vraiment toute la notice sur Girardon qui est tout à fait importante aussi. Mais seulement, c'est l'occasion de revenir sur, donc d'illustrer déjà, parce que les œuvres sont peu mal reproduites, et là donc Artena, ce sera un très beau livre aussi pour ça, et aussi l'occasion de reconsidérer la mesure exacte de son rôle à Versailles. C'est pas seulement un créateur d'œuvres géniales, c'est aussi un chef d'orchestre. Il a eu un rôle
au même titre que Lebrun pour la...
Voilà.
Est-ce que Lebrun a travaillé aussi pour les sculptures? Il faisait
Lebrun
des modèles.
A travaillé pour la sculpture.
Comment travaillait-il tous les deux alors, en fait?
Alors il y a deux périodes chez Girardon. Il y a la période jusqu'en 1683 où il travaille avec Lebrun.
Après, c'est vrai que Lebrun est un petit peu en disgrâce.
Voilà, et donc il s'impose à partir de 1683 comme une sorte de premier sculpteur du roi, sans le titre, puisque le titre n'existe pas, mais c'est son rôle. Et là, il donne des modèles à d'autres sculpteurs, alors que Lebrun se contentait de dessiner, lui, il modèle, hein, il fait vraiment des modèles en trois dimensions, en cire ou en terre.
Certains conservés ont été conservés en cire, par exemple. Est-ce qu'on trouve encore des modèles en cire?
Non, très peu, ou alors c'est pas forcément vraiment de lui, hein.
Oui.
Mais on a à Versailles une petite terre cuite de la statue de l'Hiver, par exemple, et puis certains de ces modèles ont été traduits en bronze, et là évidemment on a encore des bronzes, mais il s'est vraiment imposé comme maître d'œuvre, et c'est ça qui est important, parce que ça explique une bonne part du chantier de Versailles, de la fabrique de Versailles. C'est ce rôle des maîtres d'œuvre qui non seulement sont des artistes à titre personnel, qui créent des œuvres, mais qui aussi savent encadrer et diriger des équipes. Et Girardon a été pour cela très, très important.
Et comment travailler, par exemple, un artiste comme Girardon? Est-ce que Il faisait le modèle et ensuite c'était comment dit-on, vous savez, pas des assistants, mais des praticiens qui faisaient la sculpture, ou est-ce qu'il maniait le burin lui aussi?
Alors, il sculptait lui-même, mais il faisait appel à des praticiens, des élèves, hein, il avait tout un atelier, et on a encore certains contrats d'ailleurs de collaboration, notamment pour l'enlèvement de Proserpine, c'est pas lui qui l'a sculpté.
Donc c'est qui?
Oui, on a le nom du, oui. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'un mois après la conclusion du contrat, il est dénoncé et on n'a pas le contrat suivant. Donc on ne sait pas qui a sculpté véritablement l'enlèvement de Proserpine, mais c'est très probablement un assistant.
D'accord. Et est-ce que vous avez donc, alors, je suppose que ça vous prend tout votre temps actuellement, enfin pas tout votre temps parce que vous avez le temps inversé, mais en dehors de du travail de conservation, Gérardon doit prendre beaucoup de votre temps. Est-ce que vous avez d'autres travaux en préparation?
Alors il y a donc vous évoquiez ce livre sur la sculpture de Versailles et vous avez dit fort justement, ça n'est pas un catalogue. Alors le catalogue reste à faire des sculptures des jardins et je voudrais alors il est en cours, hein, c'est un long travail aussi parce que je le voudrais un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour le décor sculpté extérieur, c'est-à-dire il sera en ligne et donc avec possibilité de repérer la sculpture de façon topographique, un catalogue topographique des sculptures des jardins de Versailles, avec sculptures actuellement en place et sculptures qui disparues ou qui ne sont plus à Versailles. Donc c'est un gros travail qui va m'occuper beaucoup aussi après Gérardon.
Livre.
Alors, une semaine un peu pauvre en livres parus, donc je vais me retourner vers un ouvrage qui est paru il y a quelques semaines, puisque c'est le catalogue d'une exposition que je suis allé voir, et l'article sur cette exposition sera en ligne dans quelques jours, mais je voulais en parler maintenant parce que je suis, comme de temps en temps, en tout cas pas comme d'habitude, faut pas exagérer, un petit peu en retard pour écrire sur cette exposition, qui est l'exposition Constant Moyau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Constant Moyau.
C'est
non.
Surtout... Ah non.
Moi non plus. Mais je ne le connaissais pas non plus avant. Constant Moyau est un prix de Rome, en fait. Et c'est le musée des Beaux-Arts de Valenciennes qui présente Constant Moyau, du compas au pinceau, l'architecture révélée. Et donc, cet ouvrage, qui est un catalogue, raconte l'histoire de Constant Moyau. Je conseille à ceux qui peuvent aller la voir à Valenciennes de voir cette exposition, qui n'est pas une très grande exposition. Mais il y a un fond important de dessins de Constant Moyau. Il y a beaucoup de prêts de l'école des Beaux-Arts. Et c'est quelque chose de... Bah, comme tous ces prix de Rome, alors il a assez peu construit, il a construit la Cour des Comptes. Donc la Cour des Comptes est un bâtiment qu'on connaît assez peu. Il a fait de très belles aquarelles, des très beaux projets. Donc c'est une promenade dans Rome, il a de très belles aquarelles romaines. C'est une promenade, là par exemple j'ai sous les yeux, alors la plus belle en fait, hein, ça devient une des œuvres les plus connues de l'artiste. C'est une vue... je crois qu'il est à l'intérieur de son atelier à la Villa Médicis, et c'est une vue sur la fenêtre ouverte où on voit Rome au fond. C'est quelque chose, alors là je mettrai la photo en ligne, et je la montre actuellement à Alexandre Maral, et c'est quelque chose d'assez magnifique. Donc Constant Moyau, c'est une exposition, comme souvent, dans beaucoup de musées en région, c'est une exposition très méritoire et très intéressante. Nous avons publié récemment cette semaine l'article sur l'exposition, sur ce que fait le musée de Rouen dans son musée, donc qui publie également, s'appelle Le Temps des Collections, qui publie chaque année, qui fait plein de petites expositions. Finalement, Constant Moyau, c'est aussi une exposition autour du fond du musée de Valenciennes. Il y a beaucoup d'œuvres de Valenciennes, quelques œuvres qui viennent de Paris, comme je l'ai dit. Et c'est aussi une manière, dans ces temps de disette budgétaire, c'est vrai qu'il y a moins d'argent, mais ça permet des fois d'être plus innovant pour les expositions, et donc de faire des expositions à partir de leurs fonds, qui souvent permettent de redécouvrir beaucoup de choses, et c'est quand même très, 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 très intéressant. Je me retourne donc une dernière fois vers Alexandre Maral. Est-ce que nous avons parlé de beaucoup de sujets, les églises de Paris, le mauvais état des églises en général, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement?
Oui, je suis très préoccupé aussi par ça, parce que effectivement, ces églises parisiennes, c'est un magnifique musée ouvert à tous, et si on l'entretient pas, il y aura des pertes.
Et dans les églises parisiennes, est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres de sculpteurs versaillais?
Alors, on a parlé de Tubi, par exemple, de ce tombeau de Colbert que j'encourage tout le monde à voir. C'est à l'église Saint-Eustache. C'est absolument...
Oui, des sculptures funéraires, bien sûr.
Merveilleux.
Oui, oui.
Finalement, il y a pas mal de sculptures funéraires encore conservées. Je pense aussi à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, où il y a la chapelle de Lebrun.
Oui, il y a Saint-Roch. En fait, toutes ces œuvres sont parties au musée des monuments français, puis elles sont revenues.
Pas forcément dans le même état exactement dans lequel elles étaient
parties. Dans la bonne église, on a beaucoup de monuments qu'on conservait. Là-dessus, je conseille l'ouvrage de Claire Mazel sur la sculpture funéraire du Grand Siècle.
Oui, nous en avions, je crois, dit un mot sur la Tribune de l'Art, qui est un ouvrage effectivement très complet, puisque ça fait le. C'est un catalogue, une espèce de catalogue,
de toutes les... Il y a un CD qui est joint au livre et on a toutes les notices des tombeaux.
Alors, un mot de conclusion, je vais vous demander le mot de conclusion, ce qui est très difficile finalement parce que...
la conclusion, c'est que... Enfin, si je... Venez à Versailles, chers auditeurs, parce que le 2 mars, donc il y a cette journée porte ouverte de la petite écurie, qui permet de découvrir des lieux vraiment inédits à Versailles, très rarement ouverts. Donc il y a cette collection de plâtre provenant de l'école des Beaux-Arts qui forme la gypsothèque du Louvre, mais aussi ces chefs-d'œuvre de marbre provenant des jardins. Et donc le 2 mars, c'est l'occasion de voir tout.
Est-ce que ça serait ouvert tous les mois, donc le 2 de chaque mois, ou est-ce que c'est...
Pour l'instant, c'est pas encore décidé, mais évidemment, on souhaite multiplier ces occasions et les rendre régulières, ces occasions d'ouverture.
Très bien. Mais écoutez, la prochaine émission sera enregistrée le jeudi 13 février, et nous aurons comme invité Xavier Salmon, qui a travaillé à Versailles, qui était un de vos, et qui maintenant est le directeur du département des arts graphiques du Louvre. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Donc ça reviendra au jeudi. En général, l'émission est enregistrée le jeudi, sauf lorsque hier, donc nous étions à cette conférence, pas une conférence de presse, mais cette association Saint-Vincent-de-Paul donc c'était important de nous rendre sur place. Mais en général, l'émission La Semaine de l'Art est enregistrée le jeudi, tous les jeudis à 18h, sauf exception. Merci. À bientôt.